fantômes et merveilles. Une émission de la compagnie théâtrale Science 89. Avec Françoise Thirion et Michel Valmet.
Bonjour à vous, auditeurs de Jet FM qui êtes à l'écoute de notre émission Fantômes et Merveilles, émission sous-titrée aujourd'hui Vertige et Peau et Songe, ou plus exactement, les Sars sont sur les ondes avec Jean-Louis Litters. Car nous allons avoir le grand plaisir de poursuivre notre conversation démarrée la semaine dernière avec Jean-Louis Litters. Alors bonjour Jean-Louis.
Bonjour Michel, bonjour à tous les auditeurs.
Jean-Louis Litters, donc, et je le rappelle, qui va nous parler d'une incroyable affaire qui s'est déroulée au lycée de Nantes avec ses lycéens qui, d'une certaine manière, auront à voir avec ce qu'on appellera à un moment donné le groupe des Sars du lycée de Nantes, connu de nos jours sous le nom de lycée Clémenceau. Mais avant de nous entraîner dans cette nouvelle histoire et pour bien situer les choses, vous me permettrez, Jean-Louis Litters, de rappeler aux auditeurs que vous nous avez fait, lors de notre précédente émission, le portrait d'un groupe de lycéens du début du siècle dernier, de ce fameux lycée dont la personnalité était loin de nous laisser indifférents. Il s'agissait entre autres de Jacques Faché, de Jean Sarment, enfin, etc., j'en passe et des meilleurs, et j'ai comme l'impression que ces lycéens poético-ébouriffés vont être mêlés à ce que vous appelez l'affaire du lycée de Nantes. Alors, pour commencer par le commencement, nous vous laissons la parole, Jean-Louis Litters.
Eh bien, l'affaire éclate dans la presse locale, mais d'abord dans la presse nationale.
Nationale, comment ça?
Oui, au début du mois de février 1913, dans un contexte de bruit de bottes, qui précède le bruit des canons de la Première Guerre mondiale.
Ah oui, donc c'est bientôt la guerre, et cette fameuse affaire, pour reprendre votre terme, éclate comment ?
À cause d'une petite revue manuscrite, tirée à quelques dizaines d'exemplaires, et écrite par des élèves du lycée de Nantes. Revue qui fait en fait scandale. À cette époque, le nazérien Aristide Briand, un ancien élève du même lycée de Nantes, et depuis peu président du Conseil des ministres.
Aristide Briand ? Un Nantin célèbre, là encore. Et alors ?
C'est important parce qu'on débat à l'Assemblée nationale du passage de 2 à 3 ans du service militaire afin de préparer les soldats français à la défense du territoire.
Ah ben je vois, contexte tendu, là.
Par ailleurs, les journaux consacrent leur colonne au procès des complices du dénommé Bonneau.
Oh, le très célèbre anarchiste.
Et oui, et ses complices, catalogués comme des anarchistes gangsters, sont accusés de multiples crimes dans la région parisienne. Et voilà qu'une petite revue intitulée « En route, mauvaise troupe », selon un emprunt à Paul Verlaine, fait scandale.
Ah ben, c'est un titre, en effet, qui ne passe pas inaperçu, si je peux me permettre.
Surtout que le lycée comportait à l'époque une classe de préparation à l'école militaire de Saint-Cyr. Mais reportons-nous à la presse locale du 2 février 1913. Elle relaye des informations données à Paris dans le journal Liberté et aussi dans l'Écho de Paris, un journal catholique très lu dans les milieux militaires, notamment nantais. Michel, je peux vous proposer de nous lire ce que publie ce journal d'époque ?
Oui, bien sûr. Bon, d'abord, alors, voilà le titre. Un grave incident. L'antimilitarisme fleurit au lycée. Les élèves de philosophie éditent un journal anarchiste. Hein. Les Saint-Cypriens protestent. Les Saint-Cyriens. Oui. Je lis la suite. Depuis un certain temps, quelques élèves du lycée de Nantes, c'est moi qui précise, éditait un journal simplement intitulé « L'anarchie ». Les jeunes gens trouvaient que la plus belle philosophie est celle de la CGT, de Bonneau et compagnie. Il faisait nettement profession d'antimilitarisme, rédigeant des protestations contre la guerre barbare qui, à propos du conflit oriental, ferait égorger des milliers de pauvres innocents. Je lis un autre extrait. Mercredi matin, une rixe très grave eut lieu. Les élèves de Saint-Cyr, écœurés de voir la vente se continuer, entrèrent dans la cour d'honneur où donnent des classes au cri de « À bas les philosophes !» Les élèves de philosophie, rédacteurs de l'anarchie, répondirent par des cris de « À bas la guerre !» et ces doux pacifistes engagèrent la bataille contre les Saint-Cyriens. Le combat fut acharné.
Là, Michel, vous venez de lire un extrait d'un article du journal royaliste « L'Espérance du Peuple » qui est trop heureux de raviver la querelle entre le lycée et les écoles libres. Et pendant plusieurs jours, on va assister à une partie de ping-pong entre, d'une part, les adversaires de l'enseignement public, à savoir l'Espérance du Peuple et l'Express de l'Ouest, et d'autre part, la presse républicaine qui s'emploie à minimiser l'incident.
Permettez-moi, Jean-Louis Litters, de faire une petite pause musicale.
Nous parlions de la presse républicaine qui s'emploie à minimiser l'incident. C'était le cas du journal républicain Le Phare, dirigé par Maurice Faub, qui d'ailleurs était lui-même un ancien élève du lycée de Nantes.
Et Maurice Faub, le père de celle qui allait devenir la grande artiste Claude Carin, on ne peut pas ne pas le rappeler, encore une nantaise.
Et oui, mais plus encore, ce ping-pong se poursuit avec le populaire, dont le rédacteur en chef et directeur, Gaston Vell, est un ancien professeur de ce même lycée de Nantes. Gaston Vell, donc, qui rectifie nombre d'erreurs dans ce qu'il appelle des racontars réactionnaires. Ainsi, les rédacteurs ne sont pas tous élèves de la classe de philosophie.
Ah oui, comment ça ?
Pierre Bisserier et Paul Serre, oui, étaient élèves en philosophie. Mais Eugène Hublet, à cette date, avait quitté le lycée pour devenir comédien. Quant à Jacques Vacher et à Jean Bellemare, dont on a parlé lors de notre émission précédente, et qui signe déjà Jean Sarment, eux sont en première. Sarment, qui apparaît d'ailleurs comme le responsable de la revue En route mauvaise troupe. Il y publie un article où il s'en prend à un drame patriotique donné à Nantes durant l'hiver 1912, intitulé « Les martyrs de Strasbourg ».
Ah oui, le titre, article mal reçu, si je comprends bien.
Alors, notamment aux yeux des Saint-Cyriens. Sarment a le tort de s'attendrir sur les Prussiens blessés et de dénoncer des, je cite, haines idiotes et des férocités sans cause.
Et vous parliez d'un second article ?
Second article visait l'anarchie. Au passage, notons que ce n'est pas le titre de la revue, mais seulement celui d'un des articles. Il est signé Ursus. Son auteur, un élève de mathématiques nommé Paul Rivaud, cherche à définir ce qu'est être anarchiste. Je cite ce qu'il écrit. « Être anarchiste, c'est avoir pris conscience de sa valeur, c'est s'être élevé au-dessus de la foule bête et lâche et se sentir capable de vivre sans les lois mesquines établies par elle. »
Si je peux me permettre, Jean-Louis Litters, peut-être vous pourriez nous rappeler ce qu'était cette musique que nous avons entendue tout à l'heure et que vous aviez choisi de nous faire écouter.
Oui, il s'agit d'un autre thème du film India Song de Marguerite Duras, thème intitulé, comme il se doit, Rumba.
Ah, Rumba, ça va très bien avec le sujet de l'émission, merci Jean-Louis Litter. C'est maintenant, revenons à l'affaire du lycée de Nantes, devenu depuis lycée Clémenceau, rappelons-le. Nous en étions au moment où deux articles, celui signé par Jean Sarment et celui de Paul Rivaud, déclenchent la colère des Saint-Cyriens, personnalité profondément antimilitariste et anarchiste. Alors, ces contributeurs de la revue En route, mauvaise troupe, vous êtes d'accord ?
Ah non, on peut en douter. On compte parmi eux un monarchiste fervent, le fils d'un pharmacien du corps de santé militaire et un fils de lieutenant-colonel d'artillerie. Un autre rédacteur d'En route, mauvaise troupe intégrera l'école polytechnique, qui est une école militaire. Un autre, l'école navale. Un troisième terminera colonel.
Si je comprends bien, ce sont des adolescents en quête d'aventure.
Oui, des jeunes gens qui ont envie de s'émanciper et de réaliser une œuvre littéraire. Influencé peut-être par un jeune professeur d'histoire nommé Edmond Descubes, lequel sera d'ailleurs rappelé à l'ordre par le proviseur pour ses lectures imprudentes en classe.
Il y a eu des sanctions de prise à l'encontre de ces jeunes gens.
En fait, beaucoup de bruit pour rien. Seuls Jean Bellemare, Jean Sarment, et Pierre Rivaud, les auteurs des deux articles incriminés, par ailleurs excellents élèves, passèrent pour la forme en conseil de discipline et furent renvoyés quelques jours. Pour autant, le proviseur Jean Barou fit son enquête.
Ah oui, et qu'est-ce qui en est résulté ?
Un élève, lui, bien de la classe de philosophie, et connu pour appartenir au camelot du roi, a déjà, comme sa famille, posé des problèmes au lycée. Et cette fois, il a alerté l'agence parisienne de la presse associée, en lien avec 80 journaux français. Il s'en est suivi de Paris à Alger, en passant bien sûr par Nantes, une campagne de presse dans les journaux monarchistes des catholiques, très lus par les officiers, condamnant l'anarchie et l'antimilitarisme censés fleurir au lycée. Le proviseur voit en cette affaire, je cite, « un épisode de la lutte permanente, ici, contre l'université en général et le lycée de Nantes en particulier », et, l'ajoutant dans son rapport au recteur, « de la lutte » d'un élève actuel et de quelques élèves renvoyés contre son proviseur actuel.
Ah bon, quand même. Et ensuite hein ?
Jean Barou, le proviseur, a déposé plainte contre l'auteur de la calomnie envers le lycée et lui-même, et contre le journal L'Express de l'Ouest, qui répondit l'information.
Et qu'est-ce qui est advenu, enfin, de tous ces journalistes en herbe ?
Malheureusement, la Première Guerre mondiale va éclaircir les rangs des protagonistes de l'affaire du lycée. La plupart des Saint-Cyriens vont être tués au combat, de même que le professeur Descubes, tué au combat en 1916, et le camelot du roi Noé, mort en 1918 à la suite d'un combat aérien. Du côté des rédacteurs d'En route, mauvaise troupe, on compte aussi les morts. Hublet, tué au combat en 1916, Vacher, mort en 1919, peut-être suicidé. Serre, mort noyé en 1924, de façon trouble. Bisserier, mort en 1930, abîmé par la consommation de drogue. En fait, seuls vivront longtemps Pierre Rivaud et Jean Bellemare, qui, lui, a échappé à la guerre pour des raisons de santé. C'est-à-dire les auteurs des deux articles incriminés, les seuls, on l'a dit, à être passés devant le conseil de discipline du lycée.
Bon, malheureusement, notre émission pour aujourd'hui s'achève. Alors, merci Jean-Louis Litter. Et nous allons revenir à toutes ces aventures, car si je comprends bien, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Au revoir, auditeurs de JTFM.
Fantômes et merveilles. Une émission de la compagnie théâtrale Science 89. Françoise Thirion et Michel Valmet.